Je suis dans la joie quand on me dit « Allons célébrer le nom du Seigneur, car il a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Notre secours vient du Seigneur lui-même qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est grand, sa grandeur est insondable. Ceux qui le connaissent se confient en lui. Nul n'est semblable à lui, c'est à lui que la crainte est due. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Heureux ceux qui écoutent le Seigneur et qui gardent sa parole. Amen. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. » Une triste constatation que le Seigneur a fait souvent en regardant l'histoire de son peuple, et les prophètes ont repris ses paroles. Dieu ajoute et il dit, « Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont raidi leur nuque pour ne pas écouter et ne pas recevoir de leçons. » Dans le Nouveau Testament, c'est la même histoire. Étienne dit en Actes 7:51, « Homme au cou raide, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Que demande de nous le Seigneur? Voici sa parole. « Vous ne raidirez plus votre nuque. » Inclinons-nous un moment dans la prière. Éternel notre Dieu, nous sommes les personnes les plus bénis sur la terre parce que tu nous as fait entrer dans ta famille et dans ton peuple. Nous sommes tes enfants bien-aimés qui doivent avoir à ton égard la plus grande loyauté possible, une loyauté totale. Rien d'autre ne convient comme réponse à ton immense amour. Pourtant, nous devons confesser avec honte il y a des domaines dans nos vies dans lesquels nous te résistons encore. Notre nuque est raide. Nous sommes réfractaires, opiniâtres, insoumis, têtus et rebelles. Il y a des domaines dans nos vies où nous refusons encore de t'obéir, de faire plier notre volonté à la tienne. Il ne devrait pas en être ainsi. Ta parole devrait toujours avoir le pas sur notre volonté. Et Seigneur, nous savons que par ta bonne loi, tu veux nous conduire dans de bonnes voies pour que nous soyons heureux, comme le répète ta parole. Mais souvent, nous résistons à ton autorité. Dans notre folie, nous pensons savoir mieux que toi ce qu'il nous convient. Nous le regrettons, Seigneur. Nous nous en affligeons. Nous l'avouons, nos cœurs sont durs, sont raides, ils ont encore besoin d'être travaillés et transformés par ta bonne main d'amour. Nous avons besoin que tu viennes par ton Saint-Esprit nous aider à mettre fin à la désobéissance et à la rébellion qui se trouve encore dans nos existences. Nous avons besoin que tu nous aides pour que nous cessions de céder à nos mauvais penchants. Nous te rendons grâce ce matin pour ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui, lui, n'a jamais eu la nuque raide et qui a toujours accompli à la perfection ce que tu demandes. Nous te rendons grâce parce que par la foi, nous avons part à la perfection qui est en Jésus. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, à devenir ce que nous sommes, en Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Écoutez bien ce que dit le Seigneur. « Mon peuple, rappelle-toi bien ceci. C'est toi qui es mon serviteur. Je t'ai façonné. Pour que tu sois à mon service, j'ai passé l'éponge sur tes révoltes et sur tes fautes. Les voilà effacées, disparues. » Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, prions un moment. Notre bon Père, merci d'avoir prescrit la lecture et la prédication de ta parole pour que les tiens soient attirés à toi, pour qu'ils soient nourris, avertis, consolés. Que ta Sainte Écriture ait aujourd'hui sur chacun de nous un effet bienfaisant et puissant. Qu'elle nous libère, qu'elle nous délivre, qu'elle nous affranchisse, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous sanctifie. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Notre lecture biblique ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4, au verset 7 à 18. Écoutons ensemble cette parole du Seigneur. En ce qui me concerne, Tychique, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Parmi les circoncis, ce sont les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un réconfort. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens et que vous vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archip, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes. Que la grâce soit avec vous. Amen. Le pasteur Jean-Marc Taubois a été emporté par le coronavirus il y a quelques jours, à l'âge de 75 ans. C'est peut-être un nom qui ne vous est pas inconnu, puisque son nom est écrit dans la préface de la version de la Bible que nous utilisons dans cette assemblée, c'est-à-dire la Bible, la version Colombe, parce que Jean-Marc Taubois avait contribué et travaillé à la traduction de cette version de la Bible. Issu d'une longue lignée de pasteurs huguenots, ce grand amoureux de la Bible et conférencier infatigable depuis plus de 4 décennies, avait une assurance et une consolation solides. C'était quoi? C'était que dans la vie comme dans la mort, il n'appartenait pas à lui-même, mais il appartenait corps et âme à Jésus-Christ, son fidèle sauveur. Et par son sang précieux, ce fidèle sauveur, le Seigneur Jésus, a totalement payé pour tous nos péchés et nous a délivrés de toute puissance du diable. Et il nous garde si bien qu'il ne peut pas tomber un seul cheveu de notre tête sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Il ne peut pas tomber un seul cheveu de notre tête sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. cet enseignement qui provient de la bouche même du Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous remplit de réconfort. Quoi qu'il arrive, le Seigneur nous aime et il mène toutes choses à bonne fin pour nous. Dans le sage plan de Dieu, le pasteur Jean-Marc Taubois avait terminé sa mission sur la terre. Et maintenant, il se repose là où le coronavirus n'a aucun accès. Alors que nous arrivons ce matin à la conclusion de notre série de prédications sur la formidable épître de Paul aux Colossiens, nous sommes mis en présence d'une série de personnes qu'on pourrait appeler les héros dans l'ombre. Qui sont-ils? Voici leurs noms. Tychique, Onésime, Aristarque, Marc, Justus, Épaphras, Luc, Démas, Nympha et Archip. 10 héros dans l'ombre. Vous le savez, le monde est actuellement en état d'alerte et ici au Québec, le gouvernement du Québec recrute dans divers ministères le plus de personnes qu'il peut pour les former le plus rapidement qu'il peut pour que ces personnes soient en mesure de répondre aux milliers d'appels téléphoniques qui surgissent de partout dans la province pour poser des questions en lien avec la pandémie. Quelqu'un de très proche de moi travaille maintenant dans ce rôle, joue ce rôle et il m'a dit cette semaine que les personnes qui jouent ce rôle sont appelées maintenant les héros dans l'ombre dans la lutte contre le coronavirus. Les héros dans l'ombre. On pourrait dire qu'en Colossiens 4, 7 à 18, l'apôtre Paul nous parle de ces héros dans l'ombre. Il nous donne dans ces versets comme une photo de groupe de ces gens qui jouent un rôle très important dans le développement de l'Église. Tout ne reposait pas sur l'apôtre Paul pour le développement de l'Église. Tout ne reposait pas non plus sur les héros dans l'ombre pour le développement de l'Église. Tout repose sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le chef de l'Église, celui qui est la tête de l'Église. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Et c'est ce qu'il fait. Gloire à son nom. Il est fidèle. Mais ayant dit ça, on se souvient que bien que l'apôtre Paul, tout au long de cette épître aux Colossiens, ait accordé toute la place, dans un certain sens, à Jésus-Christ, nous nous souvenons à quel point, et avec raison, il a élevé ce Sauveur glorieux, nous rappelant sa suprématie sur tout, sur tous, nous rappelant sa toute suffisance, ça ne veut pas dire que le rôle ou le ministère des êtres humains sont sans valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le cas. L'Éternel Dieu se plaît à se servir de ses enfants, des chrétiens, de ses bien-aimés pour qu'ils jouent un rôle important dans le développement et la croissance de l'Église. Ça veut dire que chaque chrétien a un rôle important à jouer. Au verset 11 de notre texte, l'apôtre Paul parle de ceux qui, dit-il, travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Au début de son épître au chapitre 1, Paul avait dit, rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dans son grand amour, Dieu nous a fait entrer dans son royaume et maintenant nous travaillons dans son royaume de diverses manières, avec les dons et les talents qu'il a confiés à chacun. C'est notre vocation, c'est notre joie aussi de travailler dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce que ça implique? En quoi consiste ce travail dans le royaume de Dieu? J'aimerais ce matin, à la lumière du texte biblique que nous avons lu, relever quelques éléments du travail dans le royaume de Dieu, travail dans lequel chaque enfant de Dieu est impliqué. Je ne prétends pas que ce texte dit tout à ce sujet, mais il relève quand même plusieurs éléments importants et intéressants. Alors, regardons ensemble quelques points. Premier élément de notre travail dans le royaume de Dieu, nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes des serviteurs et les servantes de Dieu. Au verset 7, Tychique est appelé serviteur du Seigneur. Au verset 12, Épaphras est appelé serviteur du Christ Jésus. Au verset 17, il est dit qu'Archippe a reçu de Dieu un appel à servir Dieu. Et nous n'oublions pas au chapitre 3, au verset 24, Paul avait dit « Servez Christ le Seigneur ». Nous sommes au service du Seigneur. Quelle forme peut prendre ce service? Toutes sortes de formes, évidemment. Par exemple, pour Nympha, dont nous parle le verset 15, c'était d'offrir sa maison pour les réunions de l'Église. Avant le milieu du troisième siècle, presque toutes les réunions des chrétiens se faisaient dans des maisons. Il n'y avait pas de lieu de culte ou de temple comme aujourd'hui. Nympha est connue dans la Bible pour avoir fait de sa demeure une maison de Dieu en quelque sorte. C'est une belle part qui lui est réservée dans l'histoire biblique. Mais le service chrétien peut prendre toutes sortes d'autres formes, évidemment. Je pense par exemple à cette mère de famille qui avait placé un écriteau devant son évier de cuisine sur lequel on pouvait lire « Un service divin aura lieu ici 3 fois par jour ». Autrement dit, pour elle, dans sa façon de voir tout ce qu'elle faisait, eh bien, laver la vaisselle utilisée par sa famille était un service divin. Une belle attitude de toujours considérer ce que nous faisons comme étant au service du Seigneur. Nous sommes au service de Dieu, à la suite de Jésus-Christ lui-même, que la Bible nous présente comme le serviteur parfait. Jésus qui est venu et qui a dit qu'il était venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Deuxième élément de notre travail dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à être fidèles dans le service de Dieu. Fidèles. Le verset 7 nous dit que Tychique était un fidèle serviteur du Seigneur. Un peu plus tôt dans cette série de sermons, je vous avais dit que Tychique, c'était comme le facteur. C'est lui qui amenait la lettre écrite par Paul, qui est en prison à Rome. Tychique amenait cette lettre aux chrétiens de Colosse. Et on avait vu que c'était très important que cette lettre se rende à destination. Qu'est-ce que ça vaut d'écrire une lettre, une épître, s'il n'y a pas personne pour l'apporter? Et si, imaginez, Tychique avait été infidèle, s'il avait été négligent, s'il avait perdu la lettre, quel appauvrissement épouvantable pour le peuple de Dieu dans les siècles qui ont suivi. Mais Tychique a été fidèle, il a accompli fidèlement la mission qu'il avait reçue du Seigneur. Au verset 9, Paul mentionne le fidèle frère Onésime. Au verset 17, Paul écrit, « Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. » Prends garde, remplis bien ton service, fais bien les choses pour Dieu. Paul écrit à Timothée, remplis bien ton service, en 2 Timothée 4, 5. Le sens, c'est remplis ton service aussi parfaitement que tu le peux. Et c'est à ça que nous sommes appelés, nous aussi, en réponse de gratitude à l'amour de Dieu pour nous. Nous voulons bien servir le Seigneur, le servir fidèlement, avec la plus grande fidélité qui soit, dans tous les moindres petits détails. Le roi Ézéchias a dit un jour au peuple, « Cessez d'être négligent, car vous avez été choisis par l'Éternel pour être à son service. » Alors nous désirons être fidèles dans le service du Seigneur à la suite du Christ Jésus, que la Bible appelle le fidèle par excellence. C'est l'un de ses noms, le fidèle. Troisième élément de notre travail dans le royaume de Dieu, nous sommes des compagnons dans le service du Seigneur, des compagnons. Au verset 7, l'apôtre Paul dit que Tychique est mon compagnon dans le service du Seigneur. Au verset 10, il parle d'Aristarque en l'appelant mon compagnon de captivité. Un compagnon est quelqu'un qui est à nos côtés, qui nous accompagne, qui veille sur nous, qui nous relève si nous tombons, qui nous secourt. Le livre de l'Ecclésiaste dit « Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Imaginez que le Canada décide un jour d'entrer en guerre contre un autre pays et le premier ministre dit « Pour cette guerre, nous allons envoyer un soldat. » Vous diriez avec raison, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Un seul soldat ne peut pas aller en guerre. Un seul soldat ne peut pas gagner la guerre. Même si c'était le meilleur soldat au monde, même s'il avait les meilleurs équipements au monde, ça ne fonctionne pas. Il va perdre la guerre. On ne va pas à la guerre avec un soldat. Ou imaginez si notre premier ministre nous disait, en ce qui concerne le coronavirus, nous allons nommer un médecin pour tous les malades. On dirait, mais ça n'a aucun bon sens. On a besoin de plusieurs médecins. Eh bien, dans sa sagesse et dans son amour, le Seigneur, notre Dieu, désire et veut que nous soyons nombreux, des compagnons et des compagnes qui œuvrent dans son royaume. Et que c'est précieux. Nous pouvons nous soutenir les uns les autres, nous encourager les uns les autres, nous relever les uns les autres. Que c'est précieux. Nous jouons ce rôle d'être des compagnons à la suite de Jésus-Christ, notre grand compagnon par excellence, qui veille sur nous, qui est toujours prêt à nous entendre, à nous comprendre, à nous défendre. Quatrième élément de notre travail dans le royaume de Dieu, nous faisons tout pour favoriser la bonne communication entre nous. Verset 7. Tychique vous mettra au courant de tout. Verset 8. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation. Verset 9. Je l'envoie avec Onésime. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Verset 16. Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous, vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est le contraire de l'individualisme, le chacun pour soi, qui fait qu'on se fout des autres. C'est le désir qu'avaient les apôtres, les chrétiens, par ces lettres, par ces épîtres, par ces échanges, de tout faire pour favoriser la communication entre les membres du peuple de Dieu, pour que la communion et le service du Seigneur soient favorisés. Tychique est appelé le frère bien-aimé. Au verset 7, Onésime est appelé le bien-aimé frère, au verset 9. Luc est appelé le médecin bien-aimé, au verset 14. Qu'est-ce que ça fait des bien-aimés? Des bien-aimés, ça se bien-aime, ça s'aime bien. Ça fait tout ce qu'ils peuvent pour favoriser la meilleure communication possible dans le peuple de Dieu, pour qu'il y ait la meilleure communion possible au service de Dieu. Nous marchons dans cette direction, à la suite de notre merveilleux Sauveur, le Christ Jésus, grand communicateur par excellence, qui est appelé dans la Bible la parole. Cinquième élément de notre travail dans le royaume de Dieu, nous consolons et réconfortons les cœurs les uns des autres. Consolons et réconfortons. Au verset 8, Paul dit, « Je vous envoie Tychique pour qu'il console vos cœurs. » Au verset 11, il dit, « Charistarque, Marc et Justus ont été pour moi un réconfort. » Consolation et réconfort. Qui n'a pas besoin de ça? Nous en avons tous besoin. Et par moments, nous en avons besoin plus que dans d'autres moments. Et le temps que nous vivons aujourd'hui, nous en avons vraiment besoin de réconfort et de consolation. Je vous envoie Tychique pour qu'il console vos cœurs. Aristarque, Marc et Justus ont été pour moi un réconfort. Voyez-vous, les héros dans l'ombre, à l'œuvre, que c'est beau. La pandémie a fait au moins 20 000 morts jusqu'à maintenant, au moment où je me trouve aujourd'hui, mais ça varie d'heure en heure, on le sait. Hein? Chaque jour et plusieurs fois par jour, les mauvaises nouvelles s'accumulent partout, ça n'arrête pas. Les gens sont bouleversés, les restrictions tombent en cascade, notre quotidien est chamboulé. Les effets étouffants du confinement commencent à peser très lourd pour plusieurs. On dit que le système de santé est à bout de souffle. Certains disent au bord du gouffre. Alors, c'est très facile dans un tel contexte de perdre courage, très facile de craindre. Et c'est pourquoi nous avons tellement besoin du réconfort et de la consolation que nous pouvons nous donner les uns aux autres. Qui pourrions-nous, dès aujourd'hui, consoler, réconforter? Faisons-le. Faisons-le à la suite du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur merveilleux et fidèle, qui est notre grand consolateur par excellence et qui a dit que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne se décourage pas. Croyez en moi. Sixième élément de notre travail dans le royaume de Dieu, nous nous faisons bon accueil les uns aux autres. Bon accueil. Paul écrit au verset 10, « Si Marc, le cousin de Barnabas, vient chez vous, faites-lui bon accueil. » Et puis, il y a tous ces versets, verset 11, « Justus vous salue », verset 12, « Epaphras vous salue ». Verset 14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Verset 15, saluez les frères qui sont à Laodicée, ainsi que Nympha et l'Église qui est dans sa maison. Verset 18, je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Nous voyons ici le désir profond de se saluer mutuellement, de se s'accueillir chrétiennement. Écoutez bien Romains 15, 7. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Se faire mutuellement bon accueil comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est important. Dans un moment comme lui, celui que nous vivons, où nous ne pouvons pas avoir cette proximité physique les uns avec les autres comme c'était notre habitude, évidemment, nous souffrons de ça. Vraiment, c'est quelque chose qui nous manque. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, a dit Dieu, et c'est vrai, nous avons besoin les uns des autres. Paul, Luc, Démas et les autres étaient à Rome, loin des Colossiens, mais quand même, ils prennent la peine d'écrire des paroles pour dire, on ne vous oublie pas, on pense à vous, on vous salue, on vous transmet la bénédiction, la grâce, la paix du Seigneur. Hein? Et certainement que les chrétiens à Colosse étaient encouragés de recevoir ces salutations, de savoir qu'il y avait des personnes qui pensaient à eux, qui se souciaient d'eux, qui priaient pour eux. Qui le Seigneur nous demande-t-il d'accueillir ces temps-ci ou de saluer? Qui pourrait être puissamment encouragé aujourd'hui même si nous prenions la peine de lui transmettre nos salutations? À la suite du Christ Jésus qui nous a accueillis, alors que nous étions si repoussants avec nos péchés, à la suite du Christ Jésus qui nous a accueillis, accueillons-nous, saluons-nous mutuellement les uns les autres. Septième élément, dernier élément souligné ici que je relève dans notre travail pour le royaume de Dieu, nous combattons les uns les autres dans la prière. Nous combattons les uns pour les autres dans la prière. Je relis les versets 12 et 13 qui sont très importants et magnifiques. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Quelle magnifique épitaphe pour résumer la vie d'un serviteur de Dieu. Épaphras fait exactement ce que l'apôtre Paul avait dit à tous de faire au verset 2 du chapitre 4, persévérer dans la prière. Épaphras ne cesse de prier, il persévère dans la prière. La prière n'est pas de l'inaction, mais c'est un combat. Épaphras est un combattant dans la prière, un guerrier dans la prière et dans toute l'histoire du peuple de Dieu. L'Église a tellement besoin d'intercesseurs de cette trempe. Le mot « combattre » ici, la traduction du mot grec « agonizomenos », d'où vient notre mot français « agoniser ». Autrement dit, la prière est quelque chose pour Épaphras et pour le peuple de Dieu, quelque chose de très sérieux. Est-ce qu'elle l'est pour nous, la prière? Il y a des fidèles dans les églises qui, en combattant dans la prière, remportent des victoires dont vous n'avez même pas idée. Épaphras ne considérait pas la prière comme un petit appendice de sa vie, mais il la voyait comme un service essentiel à la vie de l'Église. Un service essentiel. Nous avons beaucoup entendu parler de cette expression cette semaine. Service essentiel. On appelle les services essentiels ce qui est nécessaire à la santé et à la sécurité du public. Eh bien, sachez que la prière est un service essentiel à la santé et à la sécurité de l'Église. Un service essentiel. Donc, mettons-la en priorité dans nos vies. Tournons-nous vers les promesses de Dieu. Plaidons les promesses de Dieu. Prions les promesses de Dieu. Pour faire ça, nous avons besoin d'être au courant au moins un peu des besoins de nos frères et de nos sœurs pour que nous puissions les apporter avec foi au trône de la grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, au verset 18, dit « Souvenez-vous de mes chaînes ». Il évoque son besoin des prières ardentes du peuple de Dieu dans sa situation. L'Épître aux Hébreux nous dit, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. » Épaphras, qu'est-ce qu'il demandait dans ses prières? On ne sait pas trop, il devait demander beaucoup de choses, mais il y a un petit élément ici qui est mentionné dans notre verset 12. « Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. » Cette prière d'Épaphras pour les Colossiens devrait être la prière que nous avons nous-mêmes à l'égard de nos frères et de nos sœurs. C'est une magnifique prière ici. Seigneur, fais que parfait et pleinement convaincu de ta volonté, nous tenions ferme. Quelle belle prière! Je pense difficilement à des meilleures prières que quelqu'un pourrait faire. Pour moi, nous disons parfois que ta volonté soit faite. Mais nous le disons des fois en soupirant, un peu de reculons, comme si la volonté de Dieu, c'était quelque chose de désagréable, d'épouvantable, d'insupportable. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. Et le Fils de Dieu, il disait, c'est ma nourriture de faire la volonté de mon Père. C'était son bonheur le plus grand et ça devrait être aussi notre bonheur à nous de connaître et de faire la volonté de Dieu. En vérité, lorsque notre volonté se glisse dans la volonté de Dieu, c'est la vie et c'est la paix. De nos jours, on parle beaucoup de personnes qu'on appelle des influenceurs. Ce mot, influenceur, n'existait pas dans les dictionnaires en 2010. C'est un mot qui a surgi du développement de l'Internet. Un influenceur est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'influencer les habitudes de beaucoup de personnes. Les influenceurs travaillent majoritairement sur les réseaux sociaux en influençant de cette façon de nombreux abonnés. Dans l'Église, une des meilleures manières d'être un influenceur, c'est de prier le Dieu vivant pour qu'il agisse puissamment dans la vie des autres. Une des meilleures manières, pas la seule, mais une des meilleures manières d'être un influenceur dans la vie des autres, c'est d'intercéder, c'est de prier, c'est de combattre dans la prière pour que Dieu agisse et œuvre puissamment dans la vie des autres. À la suite de Jésus-Christ, le grand intercesseur hors pair, dont la Bible nous dit qu'il intercède présentement pour nous et qu'il est toujours vivant. Colossiens 4, 7 à 18 nous enseigne que les héros dans l'ombre ont leur importance, ils jouent un rôle clé dans le plan divin du salut. L'apôtre Paul n'aurait pas pu faire grand-chose sans ses précieux collaborateurs. Sachons que le témoignage fidèle de ces héros dans l'ombre ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Voici une parole pour les héros dans l'ombre qui entendent ce message. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 10. « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'action que vous avez montrée pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » Alors ce matin, nous avons fait un survol à l'aide de ce texte qui était devant nous, de divers éléments de notre travail dans le royaume de Dieu. Nous avons vu que nous sommes au service du Seigneur, que nous sommes appelés à être fidèles dans ce service. Nous avons vu que nous sommes des compagnons au service de Dieu. Nous faisons tout pour favoriser la bonne communication entre nous. Nous consolons et réconfortons les cœurs les uns des autres. Nous nous faisons bon accueil et nous combattons dans la prière les uns pour les autres. Dans son grand amour incompréhensible et insondable, Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Nous ne travaillons plus pour notre petit royaume imaginaire égoïste. C'est fini. Nous travaillons dans le royaume de Dieu en reconnaissance pour l'amour de Dieu pour nous. Entourés de tout le beau monde dont Paul ici vient de faire la liste dans ses versets, nous servons le roi des rois au siècle des siècles, ce roi qui est un royaume qui est inébranlable, et ce grand roi, le Seigneur Jésus, qui a dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que vous soyez là où je suis, vous aussi. » Et l'Église répond, « Viens, Seigneur Jésus, viens. » Amen. Je vous invite à la prière. Notre bon Père, merci de veiller sur nous au point où pas un seul cheveu de notre tête ne tombe sans ta volonté. Merci de prendre soin de nous et de mener toutes choses à bonne fin pour nous. Merci que ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, bâtit son Église comme il l'a promis. Merci, Seigneur, que tu nous aies transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et merci de nous appeler à travailler désormais dans ce merveilleux royaume d'amour, royaume inébranlable. Aide-nous à te servir fidèlement chaque jour. Merci de faire de nous des compagnons et des compagnes de combat, de service. Aide-nous à tout faire pour favoriser entre nous la bonne communication et la bonne communion dans notre service de ta personne. Aide-nous à nous consoler et à nous réconforter mutuellement les uns les autres, particulièrement dans ces jours qui sont difficiles et inquiétants. Aide-nous à nous faire bon accueil mutuellement et à nous saluer les uns les autres d'un amour authentique et profond. Pardonne-nous, Seigneur, notre tendance à négliger la prière. Nous avons besoin de la prendre plus au sérieux. Fais que, pleinement convaincus de ta volonté, eh bien, nous tenions ferme. Merci parce que tu n'oublies pas l'amour que les héros dans l'ombre manifestent et tu vas les récompenser un jour. Nous te prions, Seigneur, d'avoir pitié de notre pauvre humanité qui s'en va à la dérive. Nous te prions de faire grâce, d'envoyer ta miséricorde. Nous sommes témoins du refus généralisé des hommes de plier le genou devant toi et de te demander pardon. Ton porte-voix que sont les épreuves pour nous réveiller de notre torpeur semble laisser la majorité indifférent. Te prions, Seigneur, que de faire en sorte que le monde, ce monde, cesse de rejeter ton Fils unique bien-aimé Jésus-Christ. Nous te prions que le monde cesse de se confier dans les hommes. Nous te prions que le monde se tourne vers toi avec repentance. Nous te prions que ton Évangile renverse les obstacles et triomphe de l'ennemi qui aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas resplendir ta gloire. Nous prions avec le psalmiste, « Ô Éternel, notre Dieu, délivre ton peuple de toutes ses détresses. » Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.